Dans Romains chapitre 8, nous pouvons aborder ce sujet assez brièvement, mais je veux aller beaucoup plus loin que de toujours centrer les choses sur nous. Romains chapitre 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Normalement, dans la vie spirituelle, la vie intérieure, l'Esprit Saint prend en main notre être fragile, faible, parfois retors. Il prend notre esprit, nos affections, tout notre cinéma intérieur, il veut le corriger. Il veut le corriger. Et Paul dit... au verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous avons pour mission de nous dégager de ces ronces, de ces épines qui viennent toujours habiter nos cœurs, nos âmes, nos pensées. Si nous ne le faisons pas, qu'est-ce que les autres vont avoir? Que du mauvais venant de nous, alors qu'ils doivent avoir du bon. Dans Romains chapitre 8 encore, les autres, la création, donc tous les humains, qui ont été soumis à la vanité, verset 20, donc à l'orgueil, à l'égarement et au péché, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumis, Adam et Ève, hein, Adam, avec l'espérance, c'est-à-dire la certitude, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu est appelé à une liberté qui l'amène à la gloire de Dieu. Une liberté par rapport à ces gangrènes de l'âme, à ces luttes intérieures. Alors, regardons un peu plus loin ce que dit Paul. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Effectivement, plein de gens sont dans le cambouis, dans la semoule, comme on dit, patinent sur le mastic, ils ne se sortent pas de leurs problèmes et les problèmes s'amplifient même. Mais normalement, il ne devrait pas en être de même pour les chrétiens. Si l'Esprit-Saint est venu dans la vie de ces personnes qui disent chrétiennes. Évidemment. Alors, au verset 23, ce n'est pas eux seulement, mais nous aussi qui avons les prémices, donc les gerbes de la première récolte, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Je vais un peu plus loin au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, on est à un stade où, souvent, en tant que chrétien, on ne sait plus comment se sortir de pensées qui nous minent, comme la termite dans le meuble, comme le rat qui trouve le béton pour arriver dans la grange à manger tout le blé, alors qu'il y a du béton, il fait des galeries dans le béton. Comme le corbeau qui va dans les champs et qui déterre les petits oignons qu'on a plantés. Et puis quand on arrive, on s'étonne qu'il en manque 2 sur 3. Donc, il y a une énorme faiblesse en nous, qui n'est pas toujours due à Satan, qui est due à notre nature humaine. Une nature faible. Et nous n'arrivons plus à demander à Dieu. Et le film de nos impuretés, le film de nos angoisses, le film de nos projets d'argent, le film des sujets concernant le travail, le film concernant les disputes de famille, le film concernant la promotion qu'on espère, etc., ces films sont tout le temps et se répètent. Et dès qu'on ferme les yeux dans le lit, qu'on veut se reposer, ou qu'on est dans l'auto, ça finit par la névrose. Un psychiatre, un psychologue va vous donner quelque chose ou va faire des séances. Ça ne changera rien, en fait. On va mettre une chape de plomb là-dessus pour que ça ne vous ronge plus. Mais ça vous amènera un cancer ou un infarctus ou autre chose, ou des lumbagos, ou des misères. de tout genre. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un remède. Il y a un remède à cette situation, mais il faut être courageux. Le remède, c'est d'être travaillé par l'Esprit Saint. Verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » L'Esprit Saint est agissant chez celui qui l'a reçu. Il y a vraiment qui s'est repenti de ses péchés et qui a renoncé un jour à ce péché, qui a accepté Jésus comme sauveur, qui a reconnu que Jésus est mort à sa place à la croix, qui a été baptisé en sachant que ce baptême représente sa mort à la croix. Pas un baptême pour être mouillé et sécher après. Alors, cet Esprit Saint vient en aide à ma faiblesse. Mais comment ? Comment, les amis ? Eh bien, les amis, c'est d'abord, prenons Jean chapitre 17. Jean 17. Jean 17, verset 17. Voilà ce que Jésus dit en parlant à son papa, à notre papa. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est capable de me remettre au clair et de chasser loin de moi les perturbations de mon âme. Si je laisse place à l'autorité de la parole, si je laisse Dieu parler dans mon âme, que je passe des heures dans la parole de Dieu, je passe des heures s'il le faut. Je ne lis pas la Bible parce qu'un tel m'y pousse. Je ne lis pas la Bible parce qu'un tel m'a dit qu'il fallait le faire. Je sais que j'ai besoin de Dieu et je vais à Dieu. J'ouvre la parole de Dieu. Une demi-heure, un quart d'heure, parfois 5 heures, parfois 10 heures. Et ça se répète. Et je reçois, sans le savoir, la puissance contre ma faiblesse. Deuxième aux Corinthiens, c'est par la parole que le Saint-Esprit agit. C'est par la parole. Si je néglige la parole et la prière, je néglige le cadeau de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Et je suis un chrétien qui se traîne dans la misère de ses pensées, de ses tendances, de ses attaques, etc. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8. « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Si je ne lis pas régulièrement la parole de Dieu, si je ne la fréquente pas, c'est que je montre à Dieu que je suis contre sa parole. L'omission est un péché grave. Celui qui ne veut pas faire cela offense Dieu. » Ce n'est pas la gentillesse des autres chrétiens. Ce n'est pas l'entraide chrétienne qui va combler cette lacune. Ce péché. On peut aider un chrétien à partir du moment où il est sérieux face à la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Si je n'aime pas lire la parole de Dieu, si je n'y vais pas de moi-même, comme Jésus a dit à la Samaritaine, si tu me demandais de mon eau, je t'en donnerais, tu n'aurais plus soif. C'est cela. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'avons de force, dynamis, en grec le mot. Nous n'avons de force et de stature, de consistance spirituelle, morale et physique, en tant que chrétien, que pour la vérité. Dans la vérité, par la vérité, par la parole, dans la parole. C'est pour ça que Paul dit « Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, Pourquoi ? Parce qu'au moment où j'expérimente ma faiblesse, j'expérimente mon désarroi, mes travers, je les revois qui reviennent, etc. Et je ne veux pas me débiner, je ne veux pas que ça dure. Je m'empare de la parole, je m'approche de Dieu qui va me parler. Est-ce que ce n'est pas cela que Jésus a dit à Marthe et Marie ? Il disait à Marthe, tu as choisi la meilleure place, parce que l'autre s'affairait, courait, courait. Et Marthe s'est assise à côté de lui pour l'écouter.
Marie, c'est Marie.
C'est peu importe. Mais l'attitude, ce qu'il y a, c'est d'être avec le Seigneur et de l'écouter. Sur le mont Hermon, quand Pierre, Jacques et Jean sont là, qu'Élie et Moïse apparaissent, que dit Dieu ? Celui-ci, fils mon bien-aimé, écoutez-le. Si c'est une parole en l'air, vous jetez Dieu à la poubelle. Et vous venez au culte pour rien. Vous vous dites chrétien pour aller en enfer. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Regardez bien comment Paul devait quand même parfois empoigner les choses. Galates chapitre 3. Ô Galates, dépourvu de sens. Galates chapitre 3. Ô Galates, dépourvu de sens. C'est un mot qui vient de Gaulois. Hein. Ce sont des populations du 4e siècle avant Jésus qui sont parties là-bas au milieu de la Turquie. Hein. Dépourvu de sens. On peut donc dire au français, dépourvu de sens, belge, allemand, tout ce qu'on veut. Qui vous a fasciné ? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc il dit, moi je vous ai présenté Jésus, mort et ressuscité à la croix, pour vos péchés. Et ça y est, vous êtes loin de là, vous n'êtes plus là-dedans. Vous avez jeté tout. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi, donc ? Je pratique, je suis gentil, je suis honnête, j'aide mon prochain, etc., etc. Donc je suis chrétien. Mais non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des athées qui font mieux que nous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint ? Ou est-ce par la prédication de la foi ? Êtes-vous tellement dépourvu de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit Saint, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Donc il est en train de dénoncer une église enlisée dans des réflexes, des réactions humaines. Une église qu'il avait fondée. Avez-vous tant souffert en vain au départ de la conversion, l'hostilité, etc., dans la région ? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il par les œuvres de la loi, donc une espèce de moralité, de principe adopté, hein, qui peut donner bien sûr une bonne conscience de soi. On pense que c'est ça être chrétien, mais pas du tout. Le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? La prédication de la foi, les amis. Allons dans Romains, chapitre 10. Quand allons-nous retrouver des églises puissantes, des églises où les gens ne s'écoutent plus, des gens qui ne s'enlisent plus dans les problèmes personnels, des personnes qui sont réellement accrochées, comme le wagon est accroché à la locomotive, accrochées à Christ. Romains 10. Verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Les amis, pour que cette parole s'adresse à moi, ça veut dire que je me relève la nuit. Tiens, je ne dors pas. Tiens, j'ai 2 heures de libre. Je me mets dans la parole. Tiens, j'ai fini mon boulot. Je prends la Bible et je l'étudie. Et ça, pas une fois par mois. Tous les jours. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est-à-dire de l'adhésion. Que j'aime, que j'écoute, que je bois. Chose bizarre, quand on est dans ce trip, quand on est dans cette façon d'être, tous les fantasmes, qu'ils soient d'argent, de boulot, d'angoisse, de n'importe quoi, ils partent. Ils s'en vont. Si je le dis, c'est parce que je l'expérimente. Et si je vois trop de gens, trop de personnes qui ne se sortent pas de leur truc, c'est parce que je sais exactement la lacune qu'il y a au niveau de la parole de Dieu. Qui puis-je ? Qui ferai-je ? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand le Seigneur reviendra, il ne vous prendra peut-être pas, ou il vous prendra. Est-ce que vous aurez de l'huile dans la lampe ou pas ? C'est beau d'avoir la Bible, c'est la lampe, mais est-ce qu'il y a de l'huile dedans ? Est-ce que sous l'action du Saint-Esprit, je vais faire fonctionner la lampe ? Je vais faire fonctionner la Bible dans ma vie ? Ou est-ce que c'est une lampe sans lumière ? Je ne laisse pas au Saint-Esprit l'autorité sur mon âme et sur mon cœur, sur mon intelligence, pour boire et comprendre et mettre en œuvre cette paix de Dieu, cette intelligence de Dieu qui vient par sa parole. Non, je renacle. Je la lis un petit peu parce qu'il faut, c'est bien sûr, je suis chrétien, il faut bien que je la lise. C'est comme le dentiste, tout qu'on fait. Il m'a dit de me brosser les dents, autrement j'aurais des caries. Moi, je vais les brosser une fois par semaine. J'ai une dentiste qui est très gentille. Depuis des années, j'y vais. Et parfois, je la blague. J'ai pris un rendez-vous, d'ailleurs, oui, pour le mois de juin. C'est bien. Y repenser. 3-4 personnes. Et je dis, vous n'en avez pas marre de plancher votre nez au-dessus des égouts? Ben oui, mais combien de gens se lavent régulièrement la bouche, hein, et mangent normalement quelque chose, hein, parce que ça ressort, hein. C'est comme les tacs d'égout, vous tirez la plaque, vous verrez. Alors, vous n'en avez pas marre? On comprend que les dentistes veulent gagner beaucoup d'argent en compensation de ça. Alors, pour Dieu, suis-je d'une bonne odeur à Dieu ou suis-je d'une mauvaise odeur? Quand Dieu me voit sur sa parole et la lire et l'aimer, la dévorer, comme dans l'Apocalypse, hein, parce que Jean doit la manger, et Jérémie aussi, Dieu voit si je la mange ou pas, Dieu voit si je la dévore ou pas, ou je la grignote du bout des dents comme un petit rat qui vient dans les fromages de temps en temps. Romains chapitre 10, verset 8. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Il n'y a pas d'autre place. Ou alors ça ne sert à rien. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc de l'adhésion, de la communion avec Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, il n'y a pas de doute. Il faut que la lampe, la Bible, et l'huile, l'œuvre de l'amour saint, du Saint-Esprit, pour la parole et pour Dieu, soit dans ma vie. Et il se dégage une lumière complète, glorieuse, une vie spirituelle réelle, pas une vie charnelle, qui se traîne, qui se plaint, qui tente à détériorer l'état de l'Église. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, donc à l'obéissance, à la sainteté. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Puis-je me taire si réellement je suis en communion avec Dieu? Puis-je me taire et ne parler jamais de mon Seigneur si je suis réellement uni à lui? Non, ce n'est pas possible. Si je suis uni artificiellement, faussement, dans le mensonge, je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de mon Seigneur, parce qu'il n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est ma chair. Vous voyez, alors au verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est extrêmement important parce que l'œuvre du Saint-Esprit se passe dans cette situation. L'œuvre du Saint-Esprit se passe dans cette situation et on ne fait pas de la théorie sur le Saint-Esprit. On ne fait pas de la théorie. Ou il est là ou il n'est pas là. Et on le voit à ses fruits. Et vous savez ce qui se passe, et c'est vieux comme le monde, Galates, vous allez voir dans Galates, le terrible combat entre le blé livré dans l'église, entre le bouc et la brebis, que Jésus a annoncé, et qu'il réglera à son retour, en triant le blé livré, les brebis et les boucs, eh bien le terrible combat existe bien. Galates chapitre 4, versets 28 et 29. Galates chapitre 4, versets 28 et 29. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, donc qui est humain, et qui se dit croyant, qui se disait sauvé, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Je vais donc plus loin. Celui qui ne vit pas fidèlement dans la parole de Dieu, qui ne laisse pas faire l'esprit, fait du tort aux autres chrétiens. Il leur fait mal. Même s'ils ne le voient pas, il leur fait mal. Vous le voyez bien, celui qui est né selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Avons-nous le droit de faire mal aux autres parce que nous sommes lâches dans notre vie spirituelle avec le Seigneur? Je dis non. Je dis non. Alors, nous allons prendre maintenant, évidemment, ce qui concerne la fin des temps. Et je pense que nous sommes bien parti pour dire que c'est la fin des temps cette fois-ci. Avec le nombre de fous qui dirigent le monde, avec le stock des armes, avec l'injustice qu'il y a sur cette terre et qu'on ne résout pas, on ne veut pas résoudre. Et avec le nombre de gens qui cirent les souliers à tous les puissants, qui sont complices, même chez les chrétiens, il y a un gros problème. Dieu entend le cri des malheureux sur la terre, comme quand il envoyait les anges à Sodome et Gomorre, et qu'il entendait les enfants, les jeunes se faire violer, sodomiser, à Sodome et Gomorre. Il envoyait les anges pour vérifier si ce qu'il avait entendu dans les cieux était vrai. Et il a puni Sodome et Gomorre. Il en est de même. Le Seigneur reviendra pour punir ce qu'il entend dans les cieux. Il va envoyer son fils Jésus pour constater ce qui se passe. Alors, regardons à l'œuvre du Saint-Esprit. Premier épître de Jean, chapitre 2. Premier épître de Jean, chapitre 2. Ne croyez pas, parce que j'ai un costume et une cravate que je vous parle. Ne croyez pas parce que j'ai un costume et une cravate que je vous parle, parce que ça, on me l'a donné. Même si j'étais tout nu, je parle de la même façon. Même si j'étais en guenille, comme un mendiant. Parce que quand le Seigneur reviendra, il me demandera des comptes. Premier épître de Jean, chapitre 2. Verset 18. On va commencer au 18. Petits enfants, il y a plusieurs mots dans les textes en grec, c'est technon, nepioi, et c'est vraiment un terme d'amour. En hébreu, c'était anawim, les pauvres de Dieu, ceux qui se soumettent, qui se laissent travailler, conduire par Dieu, par l'autorité de la prophétie. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Donc nous revenons à ce que nous avons lu dans Galates, les chrétiens de la chair qui persécutent ceux de l'esprit. Hein? Nés de l'esprit. Là, nous voyons, ils les appellent les antéchrists. Ceux qui ne laissent pas parler le Christ au cœur des autres. Cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc il parle à tous les chrétiens là. Tous ne sont pas des nôtres. Pour nous, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. L'onction de Dieu, c'est le don du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. La connaissance de quoi? Des maths, du français, de l'anglais, du luxembourgeois, du boulot? Non, non, non. De la connaissance de Christ. Une relation. Je vous ai écrit, non, que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Une vraie relation avec le Seigneur Jésus tend à détruire tous les mensonges que j'ai laissés dans ma vie, un après l'autre. Ils se font laminer. Ils se font détruire, purifier. C'est ça être purifié par le sang de Christ. Est-ce que j'ai progressé depuis un an? Est-ce que j'ai progressé depuis 6 mois? Depuis 3 jours? Est-ce que Dieu a purifié quelque chose en moi? Non, ça c'est grave. C'est que je me suis arrangé, je me suis opposé. Consciemment ou inconsciemment, je suis devenu menteur. Menteur contre le Saint-Esprit. Parce que la vérité, c'est de laisser faire le véritable en moi. Le véritable. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, c'est-à-dire n'a pas de plaisir à pécher, parce qu'on est quand même pécheur, mais il n'a pas de plaisir, il n'a pas de communion et d'adhérence, d'adhésion au péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, le véritable enfant de Dieu se garde lui-même. Il agit avec vigilance, prudence. Il a un esprit de vérité en lui pour se méfier de lui-même, de ses mensonges. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est quoi les idoles de ma vie, de mon cœur, de mes pensées? C'est quoi mes mensonges? Gardez-vous des idoles. C'est loin d'être des statues. C'est toutes sortes de choses qui sont en moi et qui n'y ont pas de place, les amis. Vous voyez, il faut être honnête. Honnête. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela, pour vous, cela est salutaire. Se réjouir dans le Seigneur, avoir une communion de joie, une communion d'amour, une communion où on est propulsé en avant vers le Seigneur, aimanté, attiré par lui, séduit par lui, où on répond à cette force. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, ça. Et prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, en l'humain. Le mot chair, c'est sarx, c'est l'humain. Donc, on voit, les amis, nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. On se glorifie dans le Seigneur. La joie, le capital de ma vie, c'est Jésus-Christ, si vous voulez. Le capital de ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est ma gloire. Et tout ce qui vient de l'humain ne m'intéresse pas. Je ne m'écoute pas moi-même. Vous voyez? C'est extrêmement important, parce que tous les apôtres ont parlé de la même façon. 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Ça fait des semaines que je prépare mes prédications sur le Saint-Esprit. J'en ai des pages entières. Je dis, Seigneur, tout ça, c'est des pages. C'est toutes des choses que je connais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me bassiner la tête à tout le monde? Non. Je vais dire des choses qui sont nécessaires à la vie spirituelle aujourd'hui, pour que si demain matin Jésus-Christ est là, le serviteur ne soit pas rejeté, et pour que l'ouvrier, l'ouvrière soit accepté. Vous comprenez ? Voilà le but de la prédication. 1 Timothée chapitre 4. L'Esprit, c'est l'Esprit Saint, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous avons donc à travers toute notre vie, tout le temps des attaques. C'est comme des téléphones portables allumés, nos âmes. C'est comme des téléphones portables, on reçoit des messages, des SMS. Puis on va les voir de temps en temps où on est toujours branché dessus. Eh bien, pratiquement, les esprits séducteurs, les esprits de Satan, sont nombreux et ils s'attaquent. Et c'est pour ça que vous avez parfois des personnes qui changent d'opinion à tout bout de champ, qui ne savent plus ce qu'ils doivent décider. Ils ne sont jamais bien dans leur peau. Ils sont en confusion, alors qu'ils sont chrétiens. Ça ne va pas. Celui qui est chrétien n'est pas confus. Il doit être au clair avec le Seigneur. Et il est avec son Seigneur. Tandis qu'ici, s'attacher à des esprits séducteurs. Est-ce que j'ai conscience que je suis attaché parfois à des esprits séducteurs, des esprits de démons ? Est-ce qu'à ce moment-là, je me lève, je dis pardon Seigneur, je prends ta parole, enseigne-moi Seigneur, purifie-moi. Vas-y à fond Seigneur. Je ne veux pas rester comme je suis. Je ne veux pas que ça repasse comme ça encore moi dans ma tête, dans mon âme et tout. Seigneur, règle ça. Je suis incapable de me changer moi-même et d'arrêter ça. Seigneur, prends autorité sur ma vie. Vous vous rappelez, 2 Corinthiens 13, 8, nous n'avons de puissance que dans la vérité. Alors, regardons ici, Timothée 4. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La flétrissure d'un faux docteur, de quelqu'un qui parle de la Bible, qui l'enseigne aux autres, c'est quoi ? L'amour de l'argent. Ça, essentiellement. Mais il y en a trois. OAS. Comme la guerre en Algérie, OAS. Orgueil, argent, sexe. Vous pouvez résumer ça comme ça. Les faux docteurs, grattez, grattez, vous trouverez. OAS. Orgueil, argent, sexe. Il n'y a pas de Christ, en fait. Il n'y a que des mots. Avec du vernis, de l'enrobage. Mais il y a OAS. Hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, oui bien sûr, ça c'est, on connaît, hein, il y a des systèmes ecclésiastiques qui le font, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris, c'est pour le moment, il y a une religion qui pratique ça pendant 40 jours. Ils sont pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Celui qui connaît Jésus, celui qui est dans la foi avec Jésus, n'a pas besoin de faire de carême. Il n'a pas besoin de faire de ramadan. Il n'a pas besoin de rester célibataire en disant « Je serai un saint. Hein? » Ou une sainte. Non. Parce que le mariage est sacré pour Dieu. Toute nourriture sur la table est sacrée pour Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté pour qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Chers amis, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est une parole à ne jamais oublier. Est-ce que ma mission n'est pas d'être semblable à Dieu un jour ? Soyez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Le dernier verset de Matthieu 5. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dans l'épître de Pierre, Dieu qui a dit « Soyez saints car je suis saint » dans l'épître de Pierre, au chapitre 2, la première épître, Paul prend ce verset-là du Lévitique. Ce que je veux vous dire, c'est que devant les péchés, devant les travers qui travaillent mon âme, qui travaillent mon caractère et qui reviennent toujours à la charge, je n'ai trouvé comme arme que ce que je vous dis. Et si vous ne prenez pas ces armes-là, je ne peux pas vous plaindre. Je ne peux pas. Je ne suis pas à votre place. Vous êtes responsable. Prenons la 2 Timothée, chapitre 3. Deuxième Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous y sommes, mes amis. Hein? Les hommes seront égoïstes, armés de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, donc ils n'aiment pas la loi de Dieu, calomniateurs. Donc ils inventent des choses fausses sur les chrétiens nés dans l'esprit, c'est ça que ça veut dire, pour les accuser et les enfoncer. La médisance, c'est relever des défauts qui existent. Mais la calomnie, c'est inventer du mal qui n'existe pas. Intempérant, donc aucun contrôle de soi, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous y voilà. Ça, c'est notre société. La libido, la zigounette et tout le reste. Ayant l'apparence de la piété, ça y est, on peut remplir énormément de salles de culte, d'église, mais reniant ce qui en fait la force. Reniant ce qui fait la force de quoi? D'une vraie vie spirituelle, c'est-à-dire la prière et la parole de Dieu. Nous venons de le lire dans un premier épître à Timothée. Ok? Alors, comme remède, un peu plus loin, au chapitre 3, verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance. » Il parle à Timothée qui a été enseigné par sa grand-mère et sa mère dans la parole de Dieu. Hmm? « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, donc la sainteté, afin que l'homme de Dieu soit accompli, la femme hein, aussi, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Vous voyez la mine d'or là. Quand je me sens au bout d'un certain temps usé là, usé jusqu'à rongé par des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, qui ne sont pas là, qui ne devraient pas y être, et que je me couche par terre ici, une heure, deux heures, trois heures, je dis, Seigneur, je t'en supplie, j'ai pas envie de rester comme ça. Au secours, Seigneur, et c'est de ma faute si je dois rester trois heures là, c'est parce que j'ai trop duré dans mon trip, dans mon mensonge, j'ai trop duré dans mes trucs. Je dis, Seigneur, quand tu m'auras donné la paix, tu m'auras tiré des liens de l'angoisse, du gouffre de la mort, comme dans les psaumes, David, alors tu as régi mon cœur. Tu m'as hissé sur le rocher que je ne pouvais pas atteindre. Alors, Seigneur, oui, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Psaume 27. Mon cœur dit, oui, Seigneur. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. À ce moment-là, ça y est. La passion s'est rallumée, la foi est vivante, l'élan est complet, et je peux rester des heures dans la parole. Je peux aller promener, écouter les oiseaux, regarder le soleil couchant, et adorer Dieu. Je peux regarder un bébé, je peux regarder quelqu'un et adorer Dieu. Je peux supporter mes péchés en sachant qu'ils n'auront pas autorité. Je peux aimer les autres en sachant qu'ils ont une couche de péché que je n'aime pas, mais Dieu les aime. Je vais essayer de prier pour eux, de prier pour qu'ils comprennent que l'autorité de Dieu dans la vie est sacrée, que c'est un trésor. Qu'il faut renoncer à sa vanité, à son orgueil, à ses propres souillures. Il faut renoncer à tout. La repentance, les amis. Et la parole de Dieu, vous l'avez vu, inspirée de Dieu. Donc, quand je lis quelque chose, Dieu parle par son Saint-Esprit à mon âme. Et il a une autorité que je n'imagine pas, qui me met sur le chemin. La deuxième à Timothée aussi, au chapitre 4, verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine ne remplit pas les églises actuellement. Les signes, les miracles, les puissances, les visions, etc. Oui. Et je dois dire, hein, j'ai appris à faire la radiesthésie quand j'étais gosse. Et tout ça. Et quand je me suis rendu compte que je voyais les lignes des mains des gens, je pouvais lire le passé, le présent, le futur, le diable me faisait des cadeaux. Je me suis rendu compte que c'était pourri. Et j'avais au même moment des obsessions sexuelles pour telle ou telle femme mariée que je rencontrais. pourriture que tous ces cadeaux du diable. Il faut s'attacher à la saine doctrine. Regardez bien. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ben oui, ça fait du plaisir à la libido, à tous les fantasmes, etc. Mais non, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je ne demande pas mieux que se lèvent dans notre assemblée des évangélistes, des gens capables d'apporter la parole aux autres. Au moins, quand je mourrai, je dirai « Ouf, j'ai servi à quelque chose. » Et pour vous aussi, je souhaite qu'un jour, quand le Seigneur vous reprendra, vous puissiez dire « Ouf, j'ai servi à quelque chose. » Il faut être sobre en toutes choses et supporter les souffrances d'une consécration à Dieu. Et écouter la parole de Dieu, passer des heures dedans, c'est là, c'est faire souffrir le péché. Ça, c'est le piétiner. Et là, le Saint-Esprit prend autorité. Alors là, le péché, il a le droit de souffrir. Il crève. À la croix, mon péché était crucifié. Mais chose bizarre, si j'oublie la croix, j'oublie le sacrifice de Christ et que je suis centré sur moi, c'est bizarre, il revient. Il a la peau dure, ce péché. Deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2. Comment pouvons-nous soupçonner que le péché, une fois pour toutes, non, il faut toujours lutter. Toujours. Le péché a la vie dure. Et le diable, c'est comment nous le rend agréable. Deuxième Thessalonicien. Chapitre 2. Verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc Jésus, hein? Jésus va revenir et prendre ses brebis, prendre son troupeau, ceux qui ont l'huile dans la lampe, ceux qui aiment la vérité et qui la laissent régner dans leur cœur. Hein? Et bien voilà, notre réunion avec lui, dans les nuées, pendant qu'il y a la tribulation sur terre pendant ces temps, hein? Et que Satan il dirige tout, hein? Au carnage total. Les chrétiens, les vrais enfants de Dieu échappent à ça. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des attaques sur notre esprit, sur notre bon sens. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Tiens, il va venir des gugus qui ont soi-disant eu des révélations. La vraie révélation est ici, les amis. Si quelqu'un prêche quelque chose qui n'est pas conforme à ça, dehors, heraus, beuten. Ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je suis en train de lire le livre de Daniel, hein, parce qu'il faut bien, c'est toujours à l'avance, des années à l'avance, souvent les prédications, il faut préparer ça. Alors pratiquement, je tombe sur un livre, une Bible catholique, où il y a deux chapitres en plus, dans le livre de Daniel. Il y a un chapitre 13 et un chapitre 14. Alors il y a la Suzanne, etc. Il y a toutes sortes de choses, la femme prude. Et quand on regarde bien, le texte de Daniel qui a été écrit au 6e siècle, en hébreu, ces deux textes sont écrits au 2e siècle, en 180, en grec. Et aucun scientifique ne permettra de dire qu'ils ont été écrits au 6e siècle en hébreu. Ils ont été écrits après, ils ont été ajoutés. C'est la même chose pour le livre de Judith, le livre de Tobie. Il faut voir avec Tobie. Il est guéri par des crottes d'oiseaux. Mais si ça, c'est pas de la sorcellerie, hein? Alors pratiquement, il y a toutes sortes de livres qui sont, ont été ajoutés au IIe siècle, qui sont mis dans la Bible des Septante et que l'Église orthodoxe et catholique ont repris. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils les reprennent alors que le judaïsme et le protestantisme les refusent ? Ils les déclarent non inspirés. Et il faut les lire. Dans les deux livres de Maccabée, on prie les morts. Ce qui permet de faire des messes pour les morts et de ramasser des sous. Vous savez pourquoi ramasser des sous ? Parce qu'il y a un moine, au XVe siècle, il savait que la construction de Saint-Pierre était fichue, elle allait tomber par terre, il n'y avait plus de sous. Et ce moine Tetzel a dit au pape, on va vendre des indulgences, on va dire qu'il y a le purgatoire, et si les gens ne veulent pas aller au purgatoire, souffrir en enfer pendant 2-3 années, il faut qu'ils nous donnent des sous. Eh bien, c'est des milliards qui sont rentrés. Plein de gens ont pris ça, comme du pain béni, l'histoire du purgatoire. Ils ont donné des sous, on a construit Saint-Pierre. Quand vous regardez Saint-Pierre et tout ce qui s'y passe, c'est sur la honte d'un mensonge du moine Tetzel. Et de cet argent, on a été prendre un verset dans les Maccabées pour dire « on a raison ». Ils ont prié pour les morts. Et c'est un livre non inspiré. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, quelques inspirations, quelques lettres ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Après l'apôtre Jean, il n'y a plus rien. La révélation est terminée. Alors, que personne ne vous séduise, verset 3, d'aucune manière, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est quoi l'apostasie, les amis ? C'est quelqu'un, ou ce sont des gens, si vous voulez, qui disent être chrétiens, qui prennent la Bible et qui l'arrangent de la manière pour conserver les trois signes de l'iniquité, OAS, orgueil, argent, sexe. Il s'arrange dans la vérité, il l'assaisonne pour garder comme principe OAS, orgueil, argent, sexe. Et sainteté, rien du tout, une apparence de sainteté, des statues avec un tronc devant pour mettre de l'argent et des bougies. Quand les gens sont partis, on éteint la bougie, on va la remettre à l'autre place. Les gens vont la racheter, on va la remettre à l'autre. L'apostasie, c'est du simulacre de foi chrétienne, c'est tout. Et pourquoi ? Parce qu'on veut entraîner des foules entières en enfer. C'est Satan. Avec une apparence de christianisme. Complètement, il paraît chrétien. Ça s'appelle le mensonge, les amis. La première aux Thessaloniciens, chapitre 4. À quoi devons-nous nous attacher, les amis ? On ira dans l'Apocalypse, on va regarder les sept églises la fois prochaine. Parce que chaque fois, les sept églises, écoutez ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Comme c'est aujourd'hui la Pentecôte, l'Esprit Saint a parlé aux sept églises. Or, les sept églises de la fin du 1er siècle, il n'y a pas d'église catholique ni orthodoxe, il n'y a que des églises évangéliques. Quand l'Esprit Saint a parlé aux sept églises, c'était des églises évangéliques. Donc, a priori, nous sommes visés par les sept églises. Alors, mais nous y reviendrons là-dessus. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de terminer ce préambule que je voulais faire. Aujourd'hui, pour les derniers temps. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 2. On va commencer au verset 1. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, c'est quand même beau, hein ?» Thessalonique, c'est Salonique actuellement. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Conjurer quelqu'un, c'est vraiment je fais tout pour te convaincre, je fais tout, j'insiste. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui, les amis. Pour moi, autant que pour vous. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Regardez. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Pas de mauvaise conduite sexuelle. Et tout le reste. Honorez le mariage, a dit Apollos dans Hébreux, chapitre 13. Honorez le mariage. c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, donc de mensonge, et de cupidité dans les affaires. Cupidité, je vais faire semblant d'être généreux, mais j'aime le fric. Hein. C'est d'abord mon fric à moi. Hein. Je suis souvent malheureux quand le panier passe, je vais vous le dire, je ne sais rien mettre dedans. Parce que je suis toujours à ras. Pourquoi? Parce que dans la semaine, etc., j'ai rencontré des gens qui avaient besoin. Mais je ne suis pas malheureux dans ce sens, parce que je vous le dis, j'ai toujours donné environ 50 à 60% de tout ce que je reçois à l'œuvre du Seigneur et aux pauvres. Mais ne croyez pas que quand le panier passe, je m'en fiche. Je vous dis, c'est un privilège pour chacun de vous d'honorer Dieu par son argent. C'est un privilège, mais pas pour enrichir le pasteur ou l'église, pour servir Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné, vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si j'ai pris ce verset, c'est parce que vous voyez sans doute que dans l'église là, il y a des gens qui ont lourdement fauté, de manière flagrante ou très hypocritement. Fauté, ils sont dans l'impureté ou ils tripotent avec l'argent, etc. Mais ce qu'il y a, vous avez une chance, il dit ça. Vous avez une grâce, vous avez reçu le Saint-Esprit. Laissez-le faire, vous deviendrez différent. Laissez-le faire, vous deviendrez différent. Ça veut dire que la grâce du Saint-Esprit dans l'Église, c'est le privilège de l'Église. C'est le privilège du pécheur que nous sommes. Jésus a dit qu'il était venu pour les malportants, pour les pécheurs. Il n'a pas dit qu'il était venu pour les justes. Donc nous, nous avons le privilège que Dieu peut nous corriger, nous transformer. C'est une joie, les amis. C'est une joie. Nous pouvons avoir la victoire sur notre mauvaise nature. C'est mis là clairement, les amis. C'est pour ça que je dis que la fête de la Pentecôte, la fête du Saint-Esprit, c'est la fête de la victoire de Christ dans nos vies. Christ, à la croix, a été saint. Et il veut pour nous la même vocation. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain, nous étudierons les sept églises de la fin du premier siècle. Et je vous ai dit, c'est toutes les églises évangéliques. Nous sommes donc visés dans les sept églises. Qui veut prier ?